الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحمد الله عز وجل على نعمه علينا، ونواصل بعونه تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر لنا من رسالة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ألا وهي أصول في التفسير. أصول في التفسير، وقد وصلنا إلى باب حكم ترجمة القرآن، وذكرنا أن الترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، والثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. Donc, on continue bien Allah Azza wa Jalla nos cours concernant le livre de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, des fondements du tafsir. Et on est arrivé la fois dernière au chapitre concernant la traduction du Coran. Et on avait dit que la traduction était de deux sortes. Une traduction qu'on appelle harfiya, littérale, hein, et qui est le fait donc de traduire mot à mot, chaque mot, et de respecter la place de chaque mot qui se trouve dans le verset ou la phrase. Le deuxième type de traduction, qui est la traduction qu'on appelle tarjamatul ma'anawiyya, une traduction explicative, on peut dire aussi tafsiriya. Celle-là consiste seulement à exprimer le sens de la parole dans une autre langue, sans pour autant préserver ou sauvegarder tous les termes et tous les vocabulaires contenus dans la phrase ou l'ordre de ces termes ou ces mots. طيب وذكرنا أيضا أن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم. On avait dit aussi que donc une traduction qui serait littérale mot à mot, du Coran, du noble Coran, est en vérité impossible, et cela donc est l'avis de beaucoup parmi les gens de science. طيب نعم. أما الترجمة المعنوية للقرآن الكريم فهي جائزة في الأصل لأنه لا محظور فيها. On avait dit donc au contraire, la traduction que l'on dit tarjamat ma'nawiyya, explicative, tafsiriya, elle est à la base donc permise, car il n'y a rien qui viendrait interdire ou prohiber cela. Voyez. Wa dhakarna aydan anna ahl al-ilm qad qa'adu qa'ida wa hiya ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Ma la yatim al wajib illa bi fa huwa wajib. Donc je conseille à tous d'écrire et d'encadrer, de souligner cette règle en or, citée par les ulama, qui est que la chose sans laquelle une obligation ne peut être effectuée est elle aussi obligatoire. Ça, c'est une règle. La chose sans laquelle une obligation ne peut être effectuée est elle aussi obligatoire. On avait dit que le fait de transmettre la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, le Coran, pour les non-arabophones, ne peut se faire sans traduction explicative. Donc de ce fait, vu que la transmission du Coran et la transmission de l'islam pour les non-arabophones, tayyib, est une chose qui est obligatoire, donc forcément, le moyen qui est ici l'expression des versets d'Allah tabarak wa ta'ala, notamment du sens de ces versets en langue autre que la langue arabe devient elle aussi obligatoire. طيب نعم. وقال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى: الترجمة المعنوية للقرآن الكريم حكمها بالأصل جائز. طيب، لكن إذا توقف أو إن توقف إبلاغ الشريعة عليها صارت الترجمة واجبة، صارت واجبة، لأن إبلاغ القرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبناء على ذلك نقول ترجمة الخطبة يوم الجمعة واجبة، ترجمة الخطبة يوم الجمعة واجبة، لأن غير الناطقين باللغة العربية لا يدرون ماذا يقول أبدا، فإنهم لن يستفيدوا إطلاقا. إذا نقول إذا كان يتوقف على الترجمة إبلاغ الشريعة كانت الترجمة واجبة. لماذا؟ لأن إبلاغ الشريعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Donc, on répète encore une fois ici, on insiste dessus, dit le Cheikh Al-Uthaymeen, que la traduction que l'on appelle ma'nawiya, explicative, ou tafsiriya, vis-à-vis du noble Coran, est à la base permise. Mais lorsque la transmission de la charia d'Allah tabarak wa ta'ala repose sur cette traduction explicative, et que sans cette traduction explicative, on ne peut effectuer la transmission de la charia d'Allah tabarak wa ta'ala, et bien dans ce cas-là, elle n'est plus permise, elle est même obligatoire. D'ailleurs, et la raison pour laquelle elle devient obligatoire, et bien tout simplement parce que la transmission du Qur'an, elle est obligatoire. Donc, comme on a dit, la règle, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Donc, la chose sans laquelle l'obligation ne peut être faite devient elle aussi obligatoire. Vous voyez ? Donc, si on se réfère à cela, nous disons donc que même la traduction du sermon du vendredi, elle est obligatoire. Vous voyez ? Celui qui fait le sermon, l'imam, qui fait le sermon du vendredi dans une mosquée où il sait que les gens ne comprennent pas l'arabe. Dans ce cas-là, il dit le cheikh, Al-Uthaymeen, il est obligatoire pour lui de traduire son discours dans la langue des gens qui sont en face de lui et qu'ils peuvent comprendre. Car dans le cas contraire, ils ne vont rien comprendre et donc ils ne vont en aucun cas tirer profit du discours. Vous voyez ? Nous disons donc, par conséquent, que lorsque la transmission de la charia d'Allah, de la législation d'Allah tabarak wa ta'ala repose justement sur cette traduction explicative, eh bien la traduction devient elle aussi obligatoire. Pour quelle raison ? Car la transmission de la charia est obligatoire et la règle, la chose sans laquelle l'obligation ne peut être effectuée est obligatoire. Vous voyez ? Donc, règle à mémoriser, à retenir, car elle va vous servir yani, tout au long de votre vie. Naam. Thumma, يقول الشيخ رحمه الله تعالى لكن يشترط لجواز ذلك الشروط: الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغني بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. يكونتني الشيخ en disant cependant, comme on a dit, c'est permis, voire même obligatoire, de traduire le sens des paroles d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais, quand même, il y a des conditions pour que cela soit permis. La première condition est que, bien sûr, on ne remplace pas le Coran, yani en langue arabe, par la traduction de ses sens dans une autre langue que la langue arabe. On ne pourra jamais, en aucun cas, se passer du Coran en langue arabe. Ça y est? Donc il faut obligatoirement que l'on continue, hein, à imprimer, à écrire les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la langue arabe. Et si on le désire, on peut écrire yani à côté ou dans la marge, yani la traduction du sens de ces versets, afin que ce soit comme un genre de tafsir en vérité. Et c'est un genre de tafsir, mais dans une langue autre que la langue arabe. Vous voyez? Car comme on a dit, la traduction littérale, mot à mot, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est en soi impossible. الشرط الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين. طيب، أي المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. طيب، deuxième condition, il faut que le traducteur soit connaisseur et sache les choses qui sont indiquées par les expressions contenues dans la langue arabe, taïeb, de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Et dans les deux langues, il faut qu'ils connaissent les définitions exactes et les différentes définitions que peuvent avoir les mots dans la langue arabe parmi la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, mais aussi dans la parole, dans la langue dans laquelle il va traduire. Vous voyez? Donc, par exemple, s'il traduit en langue française, il faut qu'il connaisse et qu'il soit un fin connaisseur de toutes les définitions, vous voyez, des mots français qu'il va utiliser pour exprimer et expliquer la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous voyez? Et tout ce que ces mots-là impliquent, que ce soit les mots arabe de la parole d'Allah ou les mots dans la langue dans laquelle il va traduire. Tout ce que ces mots-là impliquent, tout ce qu'ils impliquent, yani comme définition, comme signification et comme sens. Naam. C'était la deuxième condition. Ash-shartu al-thalith, an yakuna 'aliman bi ma'ani al-alfaz al-shar'iyyati fi al-Qur'an wa la تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. Troisièmement, que la personne soit savante des sens qui sont contenus dans les mots, yani, dans le Coran. On parle ici des sens religieux et des termes religieux. Taïeb. Donc, que la personne soit savante des définitions, des sens religieux. Car comme vous savez, le mot peut avoir plusieurs sens. D'accord? Religieux, linguistique, et ainsi de suite. Donc, il faut que la personne connaisse la définition des termes religieux de le Coran. C'est pour cela que on n'acceptera jamais la traduction explicative du noble Coran, si elle ne vient pas de quelqu'un qui est fiable et dont on peut se fier. Taïeb, de quelqu'un qui est musulman, mais qui est en plus de cela, qui est droit et intègre dans sa religion, dont on connaît le manhaj, dont on sait de lui qu'il est sur la voie des pieux prédécesseurs et n'en dévie pas d'un iota. Taïeb? Naam. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن يعني الصلاة والزكاة والحج والغيبة وهكذا فإن لم يكن عارفا بذلك فإنه لا يجوز لأنه ربما يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون الحقيقة الشرعية كما فسر قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال هن أي بنطلون فلا يصلح هذا. لكن على كل حال لا بد من أن يكون عالما بمعاني الألفاظ في اللغتين المترجم منها والمترجم إليها. Donc, par conséquent, il dit le cheikh Al-Uthaymin, il faut que le traducteur soit savante, connaisseuse hein, des sens des termes religieux dans le Coran. Des termes tels que as-salat, la prière, az-zakat, al-hajj, al-riba, la médisance, et autres que cela. Car s'il n'est pas, au cas où il ne connaîtrait pas ces termes religieux, ou la définition exacte, de ces termes religieux, il ne lui sera pas permis de traduire le sens des paroles d'Allah, tabarak wa ta'ala, car il se peut qu'il les explique, mais en fonction ou d'un point de vue linguistique seulement, et sans porter attention à la réalité religieuse. Taïeb, car ce sont deux points de vue et deux traductions qui seront différentes selon le contexte. Voyez? Par exemple, dit le cher, il se peut que la personne, si elle ne connaît pas le sens religieux des mots, eh bien qu'elle traduise la parole d'Allah tabarak wa ta'ala hunna libasul lakum wa antum libas lahun. Hein, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle des épouses, il dit ce sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles. Et la personne ne comprend pas et elle dit ici, cela représente Allah Jalla wa Ala, il parle des habits, des pantalons. Donc cela, bien sûr, ne convient pas, il n'est absolument pas permis. Quoi qu'il en soit, il faut donc, il est impératif que la personne soit savante des sens, des termes religieux et dans les deux langues. Dans la langue arabe, bien sûr, mais aussi dans la langue dans laquelle il va traduire. Que ce soit le français, l'anglais, le russe. طيب. نعم. إذن هل نقبل ترجمة من كل من ترجم القرآن؟ وقال أنا ترجمته؟ لا. لا بد أن يكون مأمونا. أيضا. إذا عقيدة سليمة. طيب. تأمن منها. أن يحرف القرآن على عقيدته فإن لم يكن مأمونا فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته. Donc par conséquent, est-ce qu'on va accepter également, admettons que la personne soit connue pour être يعني, quelqu'un qui est versé dans les deux langues. Admettons. On sait qu'elle est très forte en langue arabe et en langue française. Mais est-ce qu'on va accepter malgré ça de tous ceux qui possèdent cette qualité-là dans les deux langues et de tous ceux qui vont dire c'est bon, moi j'ai traduit le Coran? Non, il faut obligatoirement également que la personne soit fiable, ma'moun, c'est-à-dire qu'elle possède une croyance saine qui va préserver hein, toute, qui va préserver le Coran de toute déformation et de toute altération de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala en traduisant et en expliquant en vérité la parole d'Allah tabarak wa ta'ala en fonction de sa mauvaise croyance et de son égarement. Taïeb, comme on l'a vu hein, déjà maintes et maintes fois, pour ceux qui ont assisté au cours de tafsir, hein, des surats que l'on a vus jusqu'à présent, donc yani Juz'amma, Al-Fatiha, ou Ayat al-Kursi, on a vu que plusieurs fois il y avait des erreurs, des fois plus ou moins graves, mais des erreurs quand même dans la traduction des sens des versets. Et personnellement, je ne suis jamais tombé sur une traduction ou un essai de traduction du sens de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala qui ne comporterait aucune erreur ou dont on connaîtrait le traducteur. C'est la moindre des choses, c'est que l'on connaisse au moins yani, qui est le traducteur, quel est son manhaj, quelle est sa voix,
quels sont ses professeurs, et ainsi de suite. Voyez? Donc il dit les cheikhs, tant que l'on ne connaît pas qui est le traducteur, donc on ne sait pas s'il est fiable ou pas, donc on ne sait pas si il maîtrise les deux langues, on n'a pas le droit de prendre sa traduction. Naam. Allah Ta'ala a'lam. فنواصل ويقول الشيخ رحمه الله تعالى المشتهرون بالتفسير من الصحابة فاشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم إن شاء الله. Donc il dit, on passe au chapitre suivant concernant cette fois les compagnons qui sont notoires, qui sont connus, c'est-à-dire pour leur tafsir. Et donc il faut savoir que certains parmi les compagnons sont plus notoires que d'autres concernant le tafsir. Comme l'a mentionné l'imam Sayyuti, rahimahullah ta'ala, donc un des grands imams du 9e siècle de l'Égypte, si je ne m'abuse, qui a dit que les quatre califes que sont Abu Bakr, ou Omar, ou Uthman, ou Ali, ils sont connus pour leur tafsir. Sauf que les trois premiers, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar et Uthman, leur transmission au niveau du tafsir ne sont pas nombreuses, car ils étaient très occupés notamment par le califat. Et que à l'époque de leur califat, eh bien, vu que les Sahaba, bien sûr, étaient très nombreux, et que très nombreux parmi eux connaissaient très bien le tafsir, il n'y avait pas forcément besoin de transmettre plus que cela la science qu'ils avaient au niveau de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Et font partie également des Sahaba qui sont très connus pour leur tafsir, bien sûr, il y a Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum. Donc, on va citer ici, inshallah, une biographie brève et concise de Ali ibn Abi Talib, ainsi que ces deux-là qui sont Ibn Mas'ud et Ibn Abbas radiallahu anhuma. قبل ذلك, سنقرأ كلاما لشيخ الشثري حفظه الله تعالى قال الفائدة من معرفة أئمة التفسير لهذا العلم أمور. الأمر الأول معرفة أن هؤلاء الأئمة من الأعلام الثقات الذين يصح أن يستند على أقوالهم في تفسير القرآن، وهم قد حصلوا من العلم وعرفوا من اللغة وبذلوا من أنفسهم في دراسة القرآن وفهمه ما يجعلنا نثق بما يقولونه من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. Donc, à quoi ça sert de connaître justement le nom de cela, le nom des grands imams connus, notoires, pour leur tafsir? Il dit premièrement, le fait de connaître ces grands imams fiables et des montagnes de science, notamment dans At-Tafsir, ceux dont il est permis de s'appuyer sur leurs paroles dans le tafsir du Coran, hein? Et ce sont ceux donc qui ont atteint la science qui leur permet d'expliquer le Coran et qui connaissent la langue arabe, bien sûr, ce qui leur a permis donc de comprendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui ont consacré leur vie dans l'étude du Coran afin de le comprendre, eh bien tout cela fait que nous pouvons leur faire confiance et nous pouvons nous fier à leurs paroles concernant, yani ici, le tafsir du livre d'Allah, tabarak wa ta'ala. والأمر الثاني بيان أن تفسير القرآن ليس من الأمور الاعتباطية التي يدخل فيها كل من شاء الدخول، بل لا بد أن يكون المقدم على تفسير القرآن ممن توفرت فيه شروط الأهلية التي حازها هؤلاء الأعلام. أما إذا دخل في تفسير القرآن من ليس أهلاً فإنه لا عبرة في تفسيره. لا عبرة في تفسيره. Deuxième raison pour laquelle on se doit de connaître ces montagnes de science dans le tafsir. Voyez? Eh bien, parce que l'exposé du tafsir du Coran n'est pas une chose qui est légère, n'est pas une chose dans laquelle tout le monde peut s'introduire. Voyez? Au contraire. Il faut impérativement que la personne qui s'avance dans le but d'expliquer le Coran réunisse toutes les conditions qui font qu'il en est capable et qu'il est apte à cela. Et les conditions qui sont réunies donc par ces gens-là que l'on a cités, voyez, et parmi les gens qui sont venus après les compagnons et les tabi'in, tels que Ibn Kathir, tels que l'imam al-Barawi et plein d'autres, hein? Tabari, Naam, et tous les grands exégètes de l'islam notoires et connus. Naam. Donc ces gens-là ont réuni les conditions qui font qu'ils peuvent expliquer la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de par leur science, et nous on peut se fier à leurs paroles. Quant au fait que la personne entre dans l'explication de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala alors qu'elle n'est pas apte à cela, son tafsir n'a aucune valeur pour nous. Son tafsir n'aura aucune valeur pour nous. Vous voyez? Aïna. L'amr thalith, ijad qudwatin saliha amam ayunina naqtadi biha fil khayr. وفي فهم كتاب الله وتفسيره، فإن هؤلاء الأئمة قد آتاهم الله من الفهم ومعرفة معاني القرآن ما يخولنا لأن نقتدي بهم، ومن ثم نتدارس بسيرتهم وطريقتهم فنسير عليها. Et troisièmement, pourquoi il est important de connaître ces gens, ces montagnes de science dans le tafsir, afin que cela fasse naître, yani, un exemple pour nous, un excellent modèle qui soit devant nos yeux afin qu'on essaie par la suite d'imiter et de suivre le bien qu'il y a dans leur chemin. Afin qu'on essaye, yani, de suivre la compréhension du livre d'Allah tabarak wa ta'ala et son tafsir. Donc ces grands imams, Allah jalla wa ala, il leur a donné la compréhension et la connaissance des sens du Coran. Et donc toutes ces connaissances-là font que cela nous donne envie et nous incite à les imiter. Et donc on va se mettre, Inch'Allah Ta'ala, à étudier leur biographie, à étudier la vie des compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, par rapport à cela. Et donc on va essayer par conséquent de suivre leurs traces et de cheminer sur la voie qu'ils ont choisie. Aïna'am. Faqala, awalan, Aliyu ibn Abi Talib, huwa ibn Amir Rasuli sallallahu alayhi wa sallam, wa zawju ibnatihi Fatima, radiyallahu anha, wa awalu man amana bihi min qarabatihi, ishtahara bihada l'ism, وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أو في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة التبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذي بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. نعم. Donc, il dit ici Ali ibn Abi Talib. Donc, on va mentionner, on va lire ici la biographie concise de ce noble compagnon. Donc, il dit, c'est le fils de l'oncle paternel du messager, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Et c'est aussi le mari de la fille du messager, alayhi salatu wa sallam, Fatima, radiyallahu anhuma. Et c'est le premier qui a cru en lui, qui a cru en son message parmi les proches parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est connu par ce nom-là qui est Ali ibn Abi Talib, et sa cognat c'est Abu al-Hassan. Abu al-Hassan, et aussi il est connu pour une autre cognat qui est Abu Turab, une cognat qui lui a été donnée par le prophète lui-même, alayhi salatu wa sallam. Et il faut savoir que Ali ibn Abi Talib est né avant la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de 10 ans. Donc il est né 10 années avant la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comprenez bien que lorsque Ali a embrassé l'islam, il était très jeune. D'accord? Et il faut savoir aussi qu'il a été élevé sous la responsabilité du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Il a également était témoin et assisté à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la majorité de ces batailles, c'est lui qui avait l'étendard. Hein? Et donc, il n'a été absent qu'à une seule bataille, celle de Tabouk. Celle de Tabouk, donc, il s'est déroulé la 9e année de l'Hégire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré qu'il reste auprès des siens. Et il lui a dit: ne serais-tu pas satisfait d'être pour moi au même poste que Haroun pour Moussa? Ne serais-tu pas satisfait d'être pour moi au même poste que Haroun pour Moussa? Sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Et donc, les vertus, les mérites de ce compagnon, Ali ibn Abi Talib, ont été rapportés, des mérites et des vertus qui n'ont pas été rapportés pour d'autres. Cela ne veut pas dire qu'il est mieux que les autres dans l'absolu, mais ça veut dire que Ali possédait des vertus, des mérites que d'autres n'avaient pas, mais que d'autres aussi possédaient des vertus et des mérites que Ali n'avait pas. Hein? Abu Bakr avait des mérites lui aussi que Ali n'avait pas. Omar possédait des vertus que Ali ne possédait pas, et ainsi de suite. Il faut savoir également qu'il y a deux groupes égarés qui se sont égarés, qui se sont égarés et ont péri, alhamdoulilah, par sa cause. Donc on a An-Nawasib, ce que l'on appelle An-Nawasib, qui ont montré de l'hostilité, de l'animosité à l'encontre de Ali ibn Abi Talib. Ils ont essayé de cacher et de dissimuler ses vertus. Et à l'autre extrême, nous avons Ar-Rawafidh, qui ont au contraire exagéré dans ce qu'ils prétendent être l'amour pour Ali ibn Abi Talib. Ils ont donc inventé des vertus, taïeb, dont Ali se passe totalement. Au contraire, celui qui réfléchit, il verra que ces soi-disant vertus qu'il prête à Ali ibn Abi Talib, en vérité, ne sont pas des vertus ni des mérites, mais c'est plutôt des défaillances et des défauts. Wallah al-musta'an. فقال الشيخ اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها وروى عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تبارك وتعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعذب به وروي عنه أنه قال ما أخذت عن تفسير القرآن أو ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أحد أهل الشورى الذي رشحهم عمر رضي الله عنهم لتعيين الخليفة فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس ثم بويعوا ثم بويع عفوا ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. Et pour finir donc sur la biographie concise de Ali ibn Abi Talib, il dit ici donc il est connu pour son courage et pour son intelligence dans la science, jusqu'à ce que le chef des croyants, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il cherchait protection auprès d'Allah tabarak wa ta'ala contre une problématique ou contre une énigme qui ne peut être résolue par Abu Hassan, c'est-à-dire par Ali. Donc c'est devenu yani, comme un proverbe ou comme un dicton, taïeb, par rapport à l'intelligence, la grande intelligence que Ali ibn Abi Talib avait. Il disait lorsque ils étaient face à une problématique qui était très difficile à résoudre, il disait, je cherche protection auprès d'Allah contre une problématique qui ne peut être résolue hein, par Abu Hassan, c'est-à-dire par Ali. Et c'est devenu aussi une phrase, on va dire une phrase référence chez les grammairiens qui disaient donc Qadiyya ou qui disent Qadiyya wala Aba Hassan laha. Qadiyya wala Aba Hassan laha, c'est-à-dire une chose, une problématique yani, sur laquelle Abu Hassan n'est pas là pour la résoudre. D'accord? Et il a été rapporté également de Ali qui disait interrogez-moi, interrogez-moi et interrogez-moi sur le livre d'Allah tabarak wa ta'ala, car par Allah il n'y a pas un verset sans que je ne sache s'il a été descendu de nuit ou de jour. Donc il disait cela, pas pour se vanter, loin de là, Sahaba sont loin de toute vantardise et de toute fausse prétention, mais il disait cela pour attirer les gens vers la compréhension, vers l'étude du Coran. Et afin qu'ils aillent vers une source yani, qui est pure et qui est propre. Qala ibn Abbas, il dit Ibn Abbas au sujet de Ali ibn Abi Talib, il dit si une chose nous est rapportée et qui a été confirmée qu'elle vient de Ali, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller vers autre chose et on va s'en tenir au tafsir de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il a dit également Ibn Abbas que ce que j'ai pris du tafsir du Coran, eh bien, je l'ai pris de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum. Et il faisait partie aussi également de l'assemblée consultative, qu'on appelle Ahlul Shura. L'assemblée consultative, hein, des sages, des gens de science parmi les Sahaba, que Omar il a choisi donc pour désigner le calife, pour désigner le prochain calife. Et Abdurrahman ibn Auf l'a proposé à la base à Ali ibn Abi Talib. Il a refusé et il a donné yani que, des conditions. S'il voulait vraiment qu'il soit le prochain calife, il a émis des conditions dont certaines n'ont pas été acceptées. C'est pour cela donc qu'ils ont prêté serment d'allégeance à Uthman après yani, Omar. Et Ali lui a prêté serment d'allégeance ainsi que les musulmans. Alhamdoulilah. Et puis après Uthman, eh bien c'est lui qui est devenu calife et les gens lui ont prêté serment d'allégeance jusqu'à ce qu'il ait été tué en tant que martyr dans la ville de Al-Koufa la nuit du 17 du mois de Ramadan. Donc il est mort, assassiné durant la nuit du 17 du mois de Ramadan. Taïb, l'année 40 de l'Hégire. D'accord? Donc le compagnon Ali, radiallahu anhu, est décédé, assassiné à Koufa la nuit du 17 du mois de Ramadan, l'année 40 de l'Hégire. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقال هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي وأمه أم عبد وكان ينسب إليها أحيانا وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 72 سورة من القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله تبارك وتعالى وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبارك وتعالى تبلغه الإبل لركبت إليه. Donc, on passe ici au deuxième compagnon notoire dans le tafsir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est Abdullah ibn Mas'ud. Donc, c'est Abdullah ibn Mas'ud, le fils de Ghafil al-Hudhali. Taïb, Abdullah, fils de Mas'ud, fils de Ghafil al-Hudhali. Sa mère, sa cougnat était Umm Abd. Et des fois, donc, on a filié ibn Mas'ud à sa mère. Taïb, comme Abdullah ibn Umm Abd, na'am. Et il fait partie donc, Ibn Mas'ud, des premiers parmi ceux qui ont embrassé l'islam en premier. Et il a même fait les deux émigrations ici. Quand on parle de deux émigrations, eh bien c'est les deux émigrations qui ont été faites vers Al-Habasha, vers l'Abyssinie. Ça y est. Et il a été témoin également de la bataille de Badr et les autres qui ont suivi après elle. Ibn Mas'ud a pris et a reçu 70 et quelques sourates de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 70 et quelques sourates de la bouche noble de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit, quand il était encore jeune, au début de l'islam, il lui a dit: tu es certes un jeune homme mu'allam, c'est-à-dire très intelligent. Donc ici, il a attesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa grande intelligence. Et il a dit également le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui désire lire le Coran de la manière dont il a été descendu, eh bien qu'il le lise selon la lecture de Ibn Ummi Abd, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, رضي الله عنه. Dans le Sahih al-Bukhari, il a été rapporté que Ibn Mas'ud a dit: les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam savent que je fais partie des plus savants parmi eux du livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Puis il a dit: et par Allah, celui yani, en dehors duquel il n'y a aucune divinité méritant l'adoration, il n'a pas été descendu une sourate du livre d'Allah tabarak wa ta'ala sans que je sache où elle a été descendue. Il n'y a pas un verset qui a été descendu du livre d'Allah tabarak wa ta'ala sans que je sache sur qui elle a été descendue, yani à propos de qui elle a été descendue. Et si je connaissais quelqu'un qui est plus savant que moi du livre d'Allah tabarak wa ta'ala que les chameaux peuvent m'amener, eh bien, je monterai certes sur les chameaux pour le rencontrer. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى عبد الله ابن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل ملازمته النبي عليه الصلاة والسلام تأثر به وبهديه حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا وذلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. Puis il dit que Ibn Mas'ud faisait partie des gens qui étaient au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et il faisait partie donc des gens qui servaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment il portait ses souliers, il lui amenait également l'eau avec laquelle il faisait les ablutions, il portait également le coussin ou les choses sur lesquelles il posait sa noble tête, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, il a dit: je suis arrivé, moi et mon frère, au Yémen, et nous sommes restés un moment. Et nous croyons, yani, que Abdullah ibn Mas'ud était un des hommes de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tellement on le voyait entrer et sortir dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également la mère d'Ibn Mas'ud, elle aussi n'arrêtait pas d'entrer et de sortir, tellement jusqu'à ce qu'il croyait que Abdullah ibn Mas'ud faisait partie de la famille prophétique. Naam. Et donc, en raison de son attachement et de sa compagnie permanente avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été forcément touché par lui et par son comportement, jusqu'à ce que Hudhayfa a dit à propos de Ibn Mas'ud: je ne connais personne plus proche de la voix du prophète, du comportement du prophète, des caractères du prophète que Ibn Umm Abd, c'est-à-dire Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. ثم قال بعثه عمر بن الخطاب الى الكوفة يعلمهم امور دينهم وبعث عمارا اميرا وقال انهما من النجباء من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 72 سنة. Et pour conclure, inshallah ta'ala, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, l'a envoyé à Al-Kufa afin qu'il enseigne la religion aux gens fi Al-Kufa, et il a envoyé également Ammaran en tant qu'émir, en tant que gouverneur, et il a dit: ce sont tous les deux des nobles parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors imitez-les donc, suivez-les donc. Puis Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il a mis à Al-Kufa ibn Mas'ud en tant qu'émir, en tant que gouverneur, donc pendant le califat de Uthman. Ibn Mas'ud était le gouverneur de Al-Kufa, puis il a retiré, il lui a ordonné de revenir à Médine. Et donc Ibn Mas'ud est décédé l'année 32 de l'Hégire et a été enterré dans le cimetière de Al-Baqi' et il avait 70 et quelques années. Naam, naktafi bihada inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Wa l'ilmu inda Allah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.